France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, qui écrit au président et pourquoi ? La question peut paraître incongrue, elle ne l'est pas tant que ça, car ceux qui écrivent sont très nombreux et ils le font pour des raisons très différentes. Il n'est donc pas inutile de s'y arrêter, surtout à 3 mois de la présidentielle, dans un pays où tout a tendance à remonter au sommet de l'État. On verra quelles sont les raisons qui en poussent certains à s'adresser au président, à prendre le temps de lui écrire. On verra aussi ce que deviennent ces lettres envoyées par la poste ou par mail. Sont-elles toutes lues? Et si oui, par qui? Obtiennent-elles des réponses? Quelle importance les différents présidents qui se sont succédés ces dernières années ont-ils accordé à ces courriers? Et qu'en est-il aujourd'hui? Alors, si vous faites partie de ceux qui ont déjà écrit ou pas d'ailleurs au président, n'hésitez pas à nous appeler. Avec nous pour répondre à toutes vos questions, les deux auteurs d'un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions La Découverte. Son titre, Écrire au président, enquête sur le guichet de l'Élysée. Bonsoir Michel Auferlet. Vous êtes professeur émérite de sociologie du politique à l'École normale supérieure. Bonsoir Julien Fretel.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 1. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, nous partons dans la Sarthe, à la Ferté-Bernard, retrouver Carole. Bonsoir Carole.
Bonsoir Claire.
Bienvenue sur l'antenne de France Inter, Carole. Ce sujet vous a interpellée ?
Oui, tout à fait. Dès que j'ai entendu votre appel, j'ai immédiatement sauté sur mon téléphone.
Alors pour quelle raison, Carole ?
Alors je vais vous expliquer. Donc j'ai pris ma retraite le 1er septembre 2020. Bien sûr en pleine période de crise sanitaire, ce qui fait qu'immédiatement je me suis trouvée confrontée à des difficultés administratives énormes. J'avais bien sûr réalisé les démarches, il me semble, dans le bon ordre. J'ai fait appel à différents organismes, personnes. Je me trouvais confrontée à des murs de silence, en particulier de la part des caisses de retraite. Ce qui fait que je me suis décidée à écrire, d'une part à l'Élysée, d'autre part à Matignon, et enfin au ministre chargé des retraites.
Et qu'est-ce que ça a donné, Carole ?
Absolument rien.
Nulle part ?
Nulle part.
Et pourquoi vous avez pensé au président de la République ? Parce qu'a priori, il ne s'occupe pas des retraites de chacun ?
Parce que je voulais tirer en quelque sorte une sonnette d'alarme pour attirer l'attention vers les citoyens qui, à un moment donné de leur vie, à un tournant de leur vie, se trouvent confrontés à un grand vide et ne trouvent plus aucun interlocuteur.
Carole, j'espère que votre problème a été résolu entre-temps, mais sinon, on perçoit une certaine déception dans ce que vous nous dites.
Bien sûr. Parce que pour faire valoir mes droits, justement, et pour débloquer le dossier, au bout de presque 6 mois sans revenu, donc sans retraite, la seule personne qui a agi, c'est Madame Claire Hédon, défenseur des droits.
Défenseur des droits, et personnage évidemment essentiel dans notre République. Un grand merci, Carole, en tout cas, de nous avoir appelé pour nous faire part, effectivement, de ces courriers que vous avez adressés comme des bouteilles à la mer qu'on jette quand on ne sait plus quoi faire. Michel Auferlet, sur la démarche de Carole, c'est
Alors,
une démarche
qui n'est pas
unique, loin de là.
C'est très bien de commencer par ce témoignage, parce que je pense qu'il est effectivement assez représentatif de ce que, dans le langage donc du service du courrier présidentiel, on appelle une requête. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une division entre requête et opinion. Requête, c'est plutôt des cas individuels. Alors, ça peut être un logement, ça peut être une retraite, ça peut être des problèmes médicaux, etc., etc. Et visiblement, Carole, bon, elle avait un problème avec les gens qui devaient gérer sa retraite. Bon. Et puis alors, visiblement, donc, dans son expression, elle nous dit que non seulement elle parle pour elle-même, mais elle parle également pour d'autres gens. C'est-à-dire que là aussi, les requêtes, c'est parfois uniquement individuel, mais ça peut également être donc au nom d'un groupe plus important. Alors ce qu'on aimerait bien savoir, c'est justement quelle est la réponse qu'on lui a faite, puisqu'en principe, on répond à tous. Alors est-ce qu'elle a eu simplement une lettre type, ou bien est-ce que ça a été un peu plus développé ? En tout état de cause, bon, je trouve que c'est très très bien qu'elle ait qu'elle soit allée justement donc voir la défenseur des droits, qui est en gros aussi donc la deuxième instance nationale qui peut éventuellement elle intervenir et qui elle véritablement est une administration.
On va voir. Est-ce que Carole est encore là pour savoir
si... Oui, je suis toujours là, Claire. Oui.
Est-ce que vous avez eu un début de commencement de réponse, ne serait-ce que pour vous dire qu'on vous répondait pas ou rien du tout?
De la part de l'Élysée et des ministères, absolument rien.
Rien du tout. Merci Carole. Bon, merci.
Alors là, c'est en principe, c'est extraordinaire, parce que l'idée, c'est répondre à tous.
En tout cas, voilà. Carole, on lui a pas répondu. Julien Fretel.
Oui, non,
j'allais vous demander. Normalement, on doit répondre.
Oui, je voulais ajouter dans la motivation de Carole, c'est que souvent, quand on a tout essayé et qu'on est dans une situation d'urgence, alors ça renvoie aussi à nos institutions. L'une des solutions, c'est, je vais écrire au président. Voilà. Et on va voir ce qui va se passer, même si c'est pas forcément de son ressort. Et comme Michel Auffray le dit, ce qui est étonnant, c'est qu'elle ait aucune réponse, même pas une réponse type a minima. Et en général, puisqu'on a travaillé dans ce service, enfin on a enquêté dans ce service assez longtemps, en général, même si l'Élysée ne peut rien, parce que la plupart du temps l'Élysée ne peut pas faire grand-chose sur ces cas-là, l'Élysée renvoie une préfecture, renvoie des services sociaux, renvoie des ministères. Donc là, c'est une intrigue qu'il va falloir résoudre.
Alors on va voir surtout s'il y a d'autres Carole qui nous appellent ce soir pour nous dire la même chose. Dites-nous quand même un petit mot de cette enquête que vous avez pu faire et qui vous résumez dans ce livre, qui est une longue enquête. Déjà, peut-être la première chose, Michel Ferré, pourquoi avez-vous eu envie de vous intéresser au courrier de l'Élysée?
Alors, c'est la rencontre entre une opportunité, puisque une des amies de Julien travaillait au service de l'Élysée et lui a parlé justement avec beaucoup d'intérêt de ce qui se passait dans ce service. Et puis c'est également, si vous voulez, donc d'interroger à nouveau frais donc la présidence de la République, puisque généralement on parle de l'hyperprésidence, de Jupiter, etc., etc. Mais on la prend plutôt généralement vers le haut et pas tellement vers le bas. Et donc nous, on a eu l'occasion, après beaucoup d'attentes, de pouvoir travailler pendant 3 mois à raison de plusieurs séances par semaine au sein même du courrier de l'Élysée en 2017. Bon, après, éventuellement, on pourra revenir parce que
bien sûr.
On a allongé vers Macron, on est également allé vers Sarkozy, voire vers Mitterrand, si vous voulez.
Alors justement, Julien Fretel, ce service de la correspondance présidentielle, le SCP, est-ce que vous pourriez nous le présenter? Première chose que j'ai pu apprendre en lisant votre livre, ce n'est pas à l'Élysée.
Alors ce n'est pas à l'Élysée pour des raisons pratiques et des raisons de sécurité, puisque quand le courrier arrive à l'adresse officielle, le courrier est analysé, testé pour voir s'il n'y a pas des courriers dangereux. Et donc comme le personnel qui s'occupe de ce courrier est assez nombreux, entre 70 et 80 selon les présidences, eh bien il est... pas à l'Élysée, mais à côté, vers l'Alma. Et,
de l'autre côté de la Seine.
De l'autre côté de la Seine. Et donc, ça veut dire qu'on écrit, ils sont nombreux, les Français sont nombreux à écrire au président, et il faut un personnel assez important pour traiter en temps et en heure ce courrier et éventuellement le sélectionner pour le porter à la connaissance du président de la République.
Vous dites
juste
que les Français...
à côté du musée du Quai Branly. Entre le musée du Quai Branly et la cathédrale orthodoxe.
Au palais de l'Alma, un endroit célèbre, on va dire. C'est là qu'ont habité Anne Pinjot et Mazarine quand François Mitterrand était président. On y a logé Alexandre Benalla aussi, si j'ai bien lu votre livre.
Pas longtemps.
Sur ce service. Encore une fois, c'est quelque chose de prestigieux pour ceux qui y travaillent ou pas forcément, Julien Fretel?
Alors, c'est relativement prestigieux parce qu'on travaille à l'Élysée, hein, même si c'est pas dans l'Élysée, dans le palais. On travaille pour le président de la République. Il y a même une dimension psychologique, c'est-à-dire qu'on essaie de se mettre à la place du président quand on reçoit les courriers et qu'on fait des propositions de réponse et que éventuellement on sollicite ce qu'on appelle le palais, c'est-à-dire le cabinet du président pour une signature manuscrite. Néanmoins, c'est pas vraiment une administration. Hein. Beaucoup de ceux qui travaillent dans ce service sont des fonctionnaires détachés, donc pour partie un petit peu oubliée de leur administration d'origine. Et puis, c'est quand même, au bout d'un certain temps, quelque chose d'assez usant, parce que il y a peut-être des courriers magnifiques, des courriers d'opinion, mais il y a aussi beaucoup de courriers de détresse. Et donc, ça abîme quand même les agents que de voir à quel point, parfois, la misère du monde en France est aussi étendue.
Alors, on va évidemment revenir sur ces courriers et sur les volumes, mais je voudrais qu'on passe par le standard de...
Juste un point, Michel, justement, Auffray. Pour ce service. Au départ, il était essentiellement dirigé par des gens qui étaient passés par la préfectorale, parce qu'on estimait qu'ils avaient une vision interministérielle et qu'ils pouvaient à ce moment-là, s'ils voulaient, donc envoyer les requêtes ici ou là en fonction du bon interlocuteur. C'était des détachés essentiellement du ministère de l'Intérieur, mais également du ministère de l'Éducation nationale, des gens qui savaient rédiger. Et puis, lorsqu'on est arrivé, nous, dans le service, il y avait pas mal de gens qui avaient fait des études de sciences politiques. Et là, le service a été un petit peu changé, notamment avec l'arrivée donc d'un nouveau responsable de service, qui, lui, justement, est passé par le privé et qui a essayé de recruter, justement, en changeant complètement les modalités du service, essayer de recruter, justement, des gens un peu différents.
Alors, on va voir, évidemment, en quoi les choses ont pu évoluer, mais on va aller à Bonneuil-sur-Marne retrouver Jean-Paul. Bonsoir, Jean-Paul.
Bonsoir, madame.
Alors, vous avez écrit à l'Élysée, vous ?
Moi, j'ai écrit, la première fois j'ai écrit, il y a 2 ans, ok, on m'a envoyé une lettre type. Il y a une chose que je voulais parler, parce que j'ai écouté la dame qui parlait, c'est vraiment, quand on écrit au président, on est vraiment en détresse. Ça veut dire, on n'arrive plus à avoir d'autres solutions. Il y a l'administration, on ne fonctionne pas. On va voir le maire, on va voir les instances sociales, on fait ce qu'on nous dit. Renouveler le droit au logement, on renouvelle. Moi, ça fait 11 ans que je renouvelle. Quand j'écris au président de la République, ça veut dire que je suis vraiment à bout. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas à quelle porte toquer pour avoir quelque chose. C'est pour ça que j'ai écrit. La première fois que j'ai écrit, on m'a envoyé une lettre de type, on s'occupe. Et il n'y a rien eu.
Donc pour un an, pardon, rien Jean-Paul, eu. Vous avez écrit pour ce problème de logement, si je comprends bien.
Voilà, c'est ça, oui, c'est ça.
Donc première lettre et pas de réponse.
On m'a envoyé une lettre type, on s'occupe, j'ai toujours la lettre. Et un an après, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais la lettre là, je pensais que on allait faire, la préfecture allait me convoquer ou quelqu'un allait me convoquer. J'ai rien eu.
Elle faisait combien de lignes,
Michel
votre
Offerlé
lettre?
Michel Offerlé a une question pour vous.
Elle faisait combien de lignes, votre lettre?
Non, c'était une seule lettre. Hein.
Oui, mais elle faisait combien de lignes? Elle était très brève.
Oui, mais c'était jusqu'à la fin de la page. Hein. Il y avait beaucoup. J'ai expliqué tout mon cas. Hein, j'ai tout expliqué. Et j'ai fait même des photocopies des demandes de logement. J'ai fait des photocopies, hein. Ça fait depuis 2011 que je demande un logement. On est en 2022 maintenant. Vous voyez, je renouvelle chaque année. Après, j'ai écrit une deuxième lettre avec toutes les justificatifs et j'ai envoyé. Et là, j'ai envoyé en mars. On m'a pas répondu. J'ai plus de courrier. Et 2 mois après ou 3 mois après, j'ai dit, je téléphone carrément à l'Élysée.
Ah bon ?
Et j'ai appelé. Oui, j'ai appelé à l'Élysée.
Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ils m'ont dit, c'est en étude. On étudie ma lettre. C'est en étude. Il faut patienter, c'est en étude. 2 mois après, j'ai dit, non, je vais retéléphoner encore. J'ai rappelé. Ils m'ont dit, c'est en étude. Et ils m'ont pas répondu. Et on m'a même pas envoyé même une lettre type, le président a reçu votre lettre. Ils m'ont dit qu'ils ont reçu ma lettre. Et j'avais tous les justificatifs, j'ai mis dedans. Et ils m'ont jamais répondu.
Et voilà où vous en êtes. Merci Jean-Paul de nous avoir appelé pour nous raconter votre démarche. Je vous souhaite bonne chance pour la suite des événements. Julien Fretel, une fois de plus, on entend quand on ne sait plus quoi faire. On écrit au président.
Oui, ce monsieur disait d'ailleurs qu'on était à bout. Et quand on était à bout, on écrivait au président. Alors, c'est pas lié au cas qui est soulevé, mais c'est vrai que tous les jours arrivent à l'Élysée des lettres de gens expliquant que non seulement ils sont à bout, mais qu'ils sont à deux doigts de mettre fin à leur vie. Hein, et des agents sont préposés à essayer de repérer ces individus, de venir en aide, de solliciter les services de soins pour éviter qu'un drame n'arrive.
Donc, il y a des courriers de détresse.
Il y a beaucoup
profonde.
De courriers de détresse.
Et cela, faut les repérer, c'est ce que vous
voilà,
nous dites.
Ouais. Alors les suicides, si vous voulez, sont traités en urgence.
Donc ça veut dire que quand même, le courrier qui arrive, on le lit.
Ah, absolument, tout est lu.
Tout est lu.
Ah, tout est lu, bon maintenant mis sur machine, mais tout est lu. Là, de A à Z, tout est lu. Et les courriers suicidaires, ou éventuellement, si vous voulez, avec des menaces de suicide, l'attente, etc., etc., sont immédiatement traités. Il y a un délai de quelques heures. Et à ce moment-là, les services sociaux, les gendarmeries, si vous voulez, sont alertés. Bon, ça, c'est le on va dire le premier paquet. Le deuxième paquet, c'est les lettres auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'elles sont anonymes ou délirantes. Et puis sinon, après, vous avez deux, trois catégories de lettres qui sont traitées. Là aussi, le cas de Jean-Paul, c'est tout à fait une requête et qui est assez représentative aussi, si vous voulez, des demandes qui sont faites à l'Élysée, notamment dans le domaine du logement. Un certain nombre de gens, donc non seulement décrivent par le menu leurs problèmes, mais également envoient des justificatifs.
Mais est-ce qu'on ne réoriente pas les gens vers les services compétents après ?
En principe, si vous voulez. Alors là aussi, si vous voulez, nous, on n'a pas pu suivre l'ensemble, si vous voulez, des choses qui se passent dans le service, étant donné l'énormité du courrier. En tous les cas, en principe, il y a donc un envoi aux services compétents. Et d'après le nouveau donc responsable du service, il devrait y avoir des retours justement sur les demandes. Bon, mais je crois que pour le moment, lorsqu'on a fait un entretien avec lui, le nombre de retours était extrêmement faible, si vous voulez. Ça se perd bien souvent dans les méandres administratifs.
Julien, ce qui est aussi intéressant dans le cas de votre auditeur, c'est que votre auditeur, alors dans notre jargon, on l'appellerait un polyscripteur. C'est quelqu'un qui a écrit plusieurs fois
Jean-Paul.
Au président, et il n'est pas le seul. Alors on écrit plusieurs fois au président pour plusieurs raisons. Soit parce qu'on a une requête et on veut aller au bout. Et alors parfois, quand on n'a pas de réponse, on réécrit. D'ailleurs, dans les services, ce qui est redouté, c'est de ne pas répondre en temps et en heure au courrier parce qu'on sait qu'on aura un deuxième courrier expliquant la même chose et qu'il y a un risque de saturation. Mais on a aussi des polyscripteurs qui aiment ce qu'on dit dans le livre, tutoyer un peu le président de la République au sens figuré du terme, c'est-à-dire pour discuter de politique avec lui et partager avec lui, ou sa fonction, ou son symbole, un certain nombre de considérations sur l'actualité.
Ça, c'est pas des requêtes personnelles.
C'est la deuxième catégorie, mais qui est très minoritaire par rapport à la catégorie requête, même si la catégorie requête est extensible, puisqu'on peut parler de soi. On peut parler également des autres en parlant de soi. On peut parler éventuellement de sa retraite, mais de l'ensemble des retraites. Alors, pour les polyscripteurs, effectivement, vous avez même, on a retrouvé à la fois dans les archives Sarkozy et également dans les archives Hollande, enfin, du moins sur le courrier Hollande tel qu'on a pu le voir sur place, des gens qui étaient des espèces de commentateurs du quinquennat. Et qui écrivait, pouvait écrire deux fois, trois fois par an.
Si je vous ai bien lu, ça lui déplaisait pas forcément à François Hollande.
Voilà.
Il lisait bien ce qu'il y avait là-dedans.
François Hollande, si vous voulez, bon, récemment, lisait beaucoup plus de courriers que Nicolas Sarkozy. On les a vus tous les deux. Nicolas Sarkozy a affirmé qu'il était très attentif aux courriers. Ses arguments n'étaient pas vraiment, vraiment convaincants. Alors qu'Hollande, justement, se plaignait de ne plus avoir ce contact comme il avait dans la Corrèze, justement, avec les individus qu'il pouvait voir au marché, qu'il avait en permanence. Et donc, les courriers, c'était une espèce de manière donc de s'ouvrir.
Alors, figurez-vous que nous sommes en ligne avec Emmanuel qui a écrit à François Hollande. Bonsoir, Emmanuel.
Oui, bonsoir.
Alors, racontez-nous.
Écoutez, moi, dans le cadre de mon travail, j'ai des employés qui étaient de Centrafrique et qui me faisaient part de toute la difficulté qu'avait leur famille dans ce pays. Et du coup, force de toutes ces informations, j'ai écrit à François Hollande en lui expliquant la situation. Je ne comprenais pas pourquoi la France n'intervenait pas dans ce pays. Et quelques jours, peut-être 10 jours après, j'ai reçu un courrier très empathique du cabinet de François Hollande, m'expliquant ce qui avait été déjà fait, ce que la Croix-Rouge allait faire, etc. Et trois semaines plus tard, ou un mois plus tard, la France intervenait en Centrafrique. Donc ça m'a vraiment donné confiance dans le pouvoir politique. Et donc du coup, régulièrement, j'écris au président.
Et vous avez toujours des réponses ?
Pas toujours. Et depuis que c'est Emmanuel Macron, malheureusement, je n'ai pratiquement jamais de réponse. J'ai écrit trois fois à Emmanuel Macron. Et je n'ai eu aucune réponse. Non.
Rien du tout. Merci beaucoup pour votre témoignage, Emmanuel. Julien Fretel, sur cette façon de répondre de François Hollande.
Ce que dit madame, et c'est intéressant, c'est que donc madame a écrit sur de la politique, pour aller vite. Elle n'a pas parlé de son cas personnel et on n'est pas sur la requête. Et il est très probable que sa lettre est plutôt plu, en fait, aux membres du service d'abord. Sans doute, peut-être, que François Hollande l'a lu. Mais c'est une lettre qui a intéressé les agents du service. On peut même dire, parce qu'ils ont une catégorie indigène, c'est une belle lettre. Bon. Et quand il y a une belle lettre, eh bien, les gens du service prennent du temps pour y répondre, vont chercher des arguments, interpellent des conseillers du président, conseillers diplomatiques, hein, pour apporter une réponse relativement circonstanciée. Et effectivement, pour cette dame, c'était assez plaisant et encourageant d'avoir une réponse assez singulière.
Non seulement une réponse, voilà, mais en plus, peut-être...
Et alors, il y a un deuxième élément, c'est quelques semaines après, on voyait la France intervenir. Et donc, ça pose la question de à quoi sert d'écrire au président.
Donc ça peut servir.
Alors, on ne pourra pas savoir si c'est cette lettre qui a déclenché une opération militaire internationale, mais ce qu'on peut dire, c'est que quand un certain nombre de courriers arrivent autour d'un sujet, il est évident que le président de la République en prend connaissance et l'intègre dans ses décisions. Ça ne veut pas dire qu'il va se conformer à ce que les scripteurs et les scripteuses lui demandent. Il est probable qu'il l'intègre pour décider éventuellement.
Jacques, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors vous avez écrit à Jacques Chirac.
Oui, alors moi je suis un bon scripteur de la deuxième catégorie. J'ai écrit à Jacques Chirac la première fois quand il a été élu, en lui renvoyant le bulletin de Jean-Marie Le Pen, pour lui signifier que je n'avais pas voté pour lui, mais contre Jean-Marie Le Pen. Et puis de là, il y a eu quelques éléments qui ont fait que j'ai pris une correspondance régulière. Je lui ai fait au total 21 lettres, si mes souvenirs sont bons. J'ai eu deux réponses, parce que j'ai fait des lettres très polissées quand c'était les vœux du jour de l'an. Et donc là, j'ai eu une réponse, mais qui était une réponse type avec une jolie carte Élysée, que j'ai conservée, bien évidemment. Mais je n'ai jamais eu de réponse au positionnement politique. Par contre, j'ai depuis... Alors, je regrette d'avoir fait l'impasse sur François Hollande, sur Nicolas Sarkozy, n'en parlons pas, c'est peut-être pas la peine. Mais sur François Hollande, je regrette, puisque, évidemment, il avait un attachement pour ce genre de courrier. J'aurais peut-être espéré avoir une vraie réponse, mais toutes mes lettres étaient sur des commenter un petit peu la politique et ce que je ressentais au quotidien, etc. Elle se voulait un peu humoristique, hein, et d'ailleurs j'en ai fait un livre à compte d'auteur pendant la première. Voilà, donc
vous avez de la suite dans les idées, Jacques.
Voilà. Et donc j'ai continué avec Emmanuel Macron, et là j'ai eu sur trois lettres j'ai eu deux réponses assez argumentées, avec des arguments qui ne me convenaient pas forcément, mais en tout cas des réponses un petit peu fouillées qui voyaient que la lettre avait été lue. Donc j'en ai déduit que peut-être les services de l'Élysée avaient fait un petit peu un certain progrès depuis, mais je peux comparer qu'entre l'époque Chirac et l'époque Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Jacques, et je vous signale que Julien Fretel a dit qu'il aimerait beaucoup lire votre livre, donc vous nous donnerez les références pour qu'on puisse le donner à nos deux auteurs. Oui, Michel Auferlet.
Alors je pense que vous avez dit ce qu'a dit justement Jacques, c'est la lettre polissée, hein. C'est-à-dire qu'on a vu toutes les couleurs des lettres possibles, c'est-à-dire que vous avez à la fois des lettres extrêmement polissées, vous avez des lettres extrêmement insultantes, hein, même des gens qui ne sont pas anonymes et qui insultent véritablement donc le président sous leur propre identité.
Et ça arrive avec tous les présidents ?
Alors justement, c'est quelque chose qui est assez difficile, si vous voulez, à dire, parce que nous, on a eu véritablement, on a pu baigner, entre guillemets, dans le courrier de Hollande, alors que Sarkozy, on n'en a vu qu'une toute petite partie. Le responsable du service sous Mitterrand nous a dit qu'il y avait d'une certaine manière une espèce de respect vis-à-vis du président sous Mitterrand. Alors il est possible aussi, si vous voulez, que le fait que désormais on soit passé, disons, une majorité de courriels, ça a basculé aux alentours des années 2015 à peu près, et maintenant je crois que ça va être 60% de courriels et seulement 40% de courriers. Le courriel peut impliquer, si vous voulez, des formules de politesse, des présentations de soi extrêmement relâchées, si vous voulez. Ce que un courrier éventuellement, donc, non pas interdit, mais simplement, on fait un peu plus attention dans un courrier. Alors, en ce qui concerne justement donc le fond même donc de ces lettres donc polissées, vous avez une chance plus ou moins importante de remonter, si vous voulez, vers l'Élysée. Alors, c'est vrai que les requêtes, c'est rare, si vous voulez, qu'elles remontent, si vous voulez, au palais. Sauf éventuellement, par exemple, François Hollande nous a dit qu'il avait signé un certain nombre de lettres, notamment dans des cas dramatiques, des mères qui disaient qu'elles avaient perdu leurs enfants, par exemple. Bon. Et donc là, ça, c'est quelque chose qui remonte. Mais simplement, les cas personnels, c'est assez rare, ce qui pose d'ailleurs un problème politique, parce que, d'une certaine manière, l'addition de ces cas personnels, ça donne les gilets jaunes. Et ça donne, si vous voulez, donc un ensemble qui n'est pas forcément très très bien vu, ou qui n'était pas forcément très très bien vu par les services. Et sinon, vous avez donc une sélection qui est envoyée donc à l'Élysée, une sélection hebdomadaire ou mensuelle, avec donc généralement, c'est des lettres à la fois polissées, c'est des lettres plutôt d'opinion, et c'est des lettres qui sont bien écrites en bon français, en bonne orthographe.
Alors, vous venez de parler des gilets jaunes. J'aimerais savoir si, d'après ce que vous avez pu voir du courrier, Julien Fretel, est-ce que effectivement il y a eu des signaux d'alerte dans le courrier qui auraient pu laisser penser effectivement au mouvement des gilets jaunes? J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui concernent les ressources insuffisantes et la voiture.
Alors, on fait l'hypothèse que dans les courriers adressés déjà sous François Hollande, un certain nombre de germes qui allaient donner le mouvement des gilets jaunes étaient présents. Mais on doit reconnaître quand même que nous, on fait cette hypothèse a posteriori, voilà, une fois que ces mobilisations ont eu lieu. Donc il faut être assez prudent. Mais quand il y a eu ces gilets jaunes, avec Michel Auferlet, on a écrit un petit billet dans AOC pour dire que nous, quand on lisait les lettres adressées à François Hollande, on avait déjà ces questions de voiture, ces questions d'essence, ces questions de contrôle technique, de vitesse et de pouvoir d'achat. Et donc, quand on a entendu les gilets jaunes, on n'a pas été, on n'a pas été dépaysé, puisque on lisait en abondance ces courriers.
Bon. Morale de l'histoire, il faut vraiment lire les courriers et faire attention à ce qu'ils disent. Je voudrais qu'on aille au standard retrouver Pierre-Antoine. Bonsoir Pierre-Antoine, 13 ans. Vous avez 13 ans.
Oui, bonsoir. Je m'appelle Pierre-Antoine, du coup j'ai 13 ans. Et j'ai écrit au président de la République il y a 2 ou 3 ans, parce que mon rêve était de devenir président de la République, parce que je suis toujours d'ailleurs passionnée de politique. Et du coup, je lui ai envoyé une lettre pour savoir comment devenir président de la République. Ce à quoi il m'a répondu qu'il fallait avoir des idées, travailler assidûment et avoir beaucoup d'énergie. Il a aussi rajouté qu'il était réjoui de pouvoir compter sur moi, qui incarne l'enthousiasme nécessaire pour préparer l'avenir. Ce qui m'a d'ailleurs réjoui, moi aussi.
Ça veut dire que c'est lui qui a répondu ?
Non, son chef de cabinet qui a répondu.
Ok, et donc ça fait plaisir ?
Oui, oui.
Et donc toujours...
Ça fait plaisir, oui.
T'as toujours envie d'être président de la République ?
Oui, pourquoi pas.
Plus que jamais ? Tu vas lui réécrire peut-être un jour. Oui, Michel Auferlet.
Oui, alors justement, on aurait pu penser éventuellement, ça aurait pu être le style Macron, qu'il signe une lettre, si vous voulez, qui avait été écrite par son service. Ça, c'était possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, Pierre-Antoine nous donne un petit peu de son identité, c'est-à-dire qu'il nous dit quel âge il a, parce que on s'est aperçu que dans le courrier. Eh bien, on ne sait pas forcément, justement, les trois précédents interlocuteurs n'ont pas dit qui ils étaient. C'est-à-dire que on sait que c'est un homme ou une femme. On arrive parfois aux questions qui sont posées, à savoir la génération, à peu près. De toute manière, les jeunes utilisent relativement peu le courrier, ils utilisent d'autres moyens éventuellement donc de communication. Mais par contre, en ce qui concerne, si vous voulez, donc la catégorie sociale, bon, on sait d'où ils viennent, on sait de quelle région, de ville, etc. Mais la catégorie sociale n'est pas forcément, si vous voulez, donnée. C'est-à-dire que bien souvent, tous ces scripteurs, qu'ils soient d'ailleurs des scripteurs d'opinion ou de requête, se disent de la classe moyenne, pour s'opposer à ceux d'en haut, et pour s'opposer parfois aussi de manière vigoureuse à ceux d'en bas, à savoir les assister, entre guillemets. Bon, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal, si vous voulez, à faire une espèce de portrait de ceux qui écrivent, parce qu'on a des bribes, parce qu'effectivement, sauf... Alors, si, les catégories, très très clairement, les patrons disent qu'ils sont des patrons lorsqu'ils exposent le problème de leur entreprise. Mais pour le reste, on sait que c'est quelqu'un de retraité, mais sans beaucoup, si vous voulez, de connotations sociodémographiques.
Oui, alors la démarche de Pierre-Antoine est d'abord très, très belle et touchante, et très révélatrice de la force de l'institution présidentielle. Parce qu'effectivement, presque quotidiennement, même si c'est pas la majorité, les enfants écrivent. Et quand on lit les courriers ou les dessins, parce que les enfants écrivent des dessins, on voit que parfois les parents mettent un petit mot en disant « on vous promet qu'on n'est pas derrière
on
tout ça ».
On n'y est pour rien.
Ils ont voulu écrire. Et ça veut dire que chez les enfants, il y a déjà l'institution présidentielle qui est
en tête. Là, il y a Michel Auferlet qui montre
qui à l'esprit.
Effectivement des dessins. Il faudra qu'on mette ça sur le site. Figurez-vous qu'on a Juliette aussi, 12 ans, qui est au téléphone et qui a... Bonsoir Juliette, qui a écrit au président. Bonsoir.
Oui. J'ai écrit 2 fois au président et il m'a répondu les 2 fois. Et la première fois, j'avais 10 ans et je lui ai écrit au sujet de la vaccination des gens qui étaient à la rue. Et la deuxième fois, j'ai écrit au sujet de la pollution des mers.
Et alors, donc, les réponses, ça a été quoi?
Il m'a répondu les deux fois et j'ai les lettres avec moi.
Et c'est Juliette, c'est toi qui avais eu l'idée d'écrire?
Oui.
Et pourquoi tu as pensé au président?
Parce que je sais pas, j'étais dans la voiture et là j'ai pensé aux gens qui étaient à la rue et qui devaient se faire vacciner. Et après j'ai décidé d'écrire au président.
Merci Juliette pour ce témoignage, Julien Fretel. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur ce genre de témoignage? Encore une fois, ça remonte au sommet de l'État. Ça veut dire quoi de notre façon de fonctionner? Il y a un côté monarchique là-dedans?
Voilà. Alors, quand on parle de présidentialisation, on peut éventuellement redéfinir les règles constitutionnelles qui organisent notre vie politique. Mais avec Michel Auferlet, on pense la présidentialisation aussi quand elle est dans l'esprit des grands comme des petits. Et donc, ces enfants qui ont un niveau de connaissance politique en général limité, c'est normal, ils sont en phase d'apprentissage, connaissent au moins un personnage, le président de la République, et ce, assez tôt, hein, puisque en école primaire, je sais par exemple que dans une école du 19e, Fessard, des classes ont écrit au président de la République, et ça parle aux élèves que d'écrire au président de la République. Ils connaissent ce personnage. Certains, ça a été dit par Pierre-Antoine, disent même vouloir un jour être président ou présidente de la République.
Alors, il y a quelque chose moi qui m'a surprise, que j'ai appris dans votre livre, et du coup je suis allée regarder effectivement sur le site de l'Élysée après. Il est dit, on invite les gens à écrire au président, c'est très clair. Une cause vous tient à cœur, un fait d'actualité vous interpelle, vous souhaitez faire part de vos préoccupations ou de vos réflexions. En quelques clics, envoyez votre message au président de la République ou à Brigitte Macron.
Absolument.
Ça veut dire quoi? On écrit au roi et à la reine aussi?
C'est un petit peu ça. Vous pouvez l'interpréter comme ça, effectivement, puisque on a toujours écrit au souverain. Enfin, je veux dire, bon, mais avec des formes, on peut comparer avec l'Ancien Régime, mais c'est...
Oui, c'est ce que j'allais vous demander d'ailleurs. Ça date de quand d'écrire?
Bon, mais les placer, les requêtes sous l'Ancien Régime avaient des formes déterminées, si vous voulez. Tandis que là, c'est d'une certaine manière une forme de démocratisation de l'appel au souverain. Alors, et c'est vrai que dans les courriers, vous avez donc les courriers monsieur et les courriers madame. Alors les courriers monsieur sont généralement beaucoup plus nombreux, effectivement. Mais Brigitte Macron,
on n'a pas encore parlé du volume que ça pouvait représenter, du nombre de courriers qu'il y avait
effectivement,
chaque année, par exemple.
C'est 1000 par jour, et depuis le Covid, c'est plutôt 2000, si vous voulez. Je pense qu'il y a eu effectivement une montée. Pendant les attentats aussi, si vous voulez, il y a eu une montée du nombre de courriers, si vous voulez. Bon, Brigitte Macron, d'après les statistiques, c'est aux alentours d'entre 20 et 25 000 courriers par an, si vous voulez. Bon, courrier et courriel, si vous voulez. Bon, et donc effectivement, ce qu'on voit, c'est par rapport à ce qu'on appelle le présidentialisme, c'est le présidentialisme par le bas, c'est-à-dire de quelle manière les gens se représentent justement le rôle du président de la République, peuvent éventuellement donc l'interpeller avec vraisemblablement, bon, pour certains d'entre eux, l'idée qu'il peut faire beaucoup de choses. Bon, même si ensuite ils sont déçus, si vous voulez. Bon, et notamment le droit de grâce est dans la Constitution, il est presque plus désormais, si vous voulez, donc appliqué. Mais on a l'impression que certains d'entre eux pensent qu'on peut gracier tout et n'importe quoi, si vous voulez, que le président pourrait éventuellement utiliser ce droit de grâce. Bon, alors c'est ça, si vous voulez.
Le président a déjà beaucoup de pouvoir, mais on lui en accorde encore plus à travers.
Vraisemblablement, c'est un petit peu, si vous voulez, d'une certaine manière. Bon, même si la présidente est vilipendée, il y a une partie des Français malgré tout qui tente sa chance, bon, et qui reconnaît encore l'institution et qui en quelque sorte en appelle, si vous voulez, bon, ce qu'on peut appeler au souverain effectivement, pour qu'il puisse intervenir à la fois sur son cas personnel, voire éventuellement pour les opinions, intervenir sur les politiques publiques.
Bon. On va repartir au standard, retrouver Karma cette fois. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Oui, bonsoir, merci beaucoup. Moi, je voulais parler d'une lettre qu'avaient reçue mes parents en réponse à la lettre qu'ils avaient adressée à François Mitterrand. Alors, en fait, on est arrivé dans les années 80 du Liban pour soigner ma sœur qui avait un cancer de la moelle osseuse et qui a été sauvée par l'hôpital Goncourt à Paris. Sauf que mes parents, plus tard, on leur a réclamé l'argent qu'ils n'avaient pas.
l'hôpital, enfin qu'il devait à l'hôpital public et qui représentait une somme considérable, 1 million de francs à l'époque. Et ils étaient dans l'impossibilité de régler cette somme. Alors mon père, qui écrivait très très bien, c'était un littéraire, un poète, s'est fendu d'une lettre d'abord en arabe et un ami lui a traduite. Il a envoyé cette lettre à France, au cabinet de François Mitterrand et au cabinet de Michel Rocard, qui était Premier ministre à l'époque. Et une semaine plus tard, mes parents ont reçu une réponse d'abord du cabinet de François Mitterrand pour dire que cette dette, mes parents ne la devraient plus. Et quelques jours après, une même lettre du cabinet de Michel Rocard pour dire la même chose. Donc mon père, qui était déjà un fervent mitterrandien, ça n'a fait qu'amplifier son adulation. Je ne sais pas si mon témoignage va plaire à beaucoup de monde, puisqu'on va dire que... voilà, on soigne gratuitement les étrangers. Toujours est-il que nous, on a fini par s'installer en France et devenir français, et que ma sœur a pu être soignée et sauvée par l'hôpital public. Voilà.
Merci beaucoup, Karma. J'aimerais qu'on dise un petit mot de la façon dont le service a évolué au cours des années, parce que si je vous ai bien lu, j'ai l'impression que ça s'est, entre parenthèses, professionnalisé sous Emmanuel Macron. On utilise des algorithmes maintenant pour analyser les courriers qui arrivent.
Surtout, effectivement, donc vraisemblablement, il y a eu une augmentation du passage des lettres vers les chiffres. C'est-à-dire qu'on a les lettres deviennent des chiffres. Hein. C'est-à-dire que ils sont mis à ce moment-là, donc d'abord même sous François Hollande, en graphique, on compte les pour, les contre, on essaye de voir justement l'état de l'opinion à travers donc les lettres, qui sont une forme de sondage éventuel. Bon. Mais alors, ça s'est accéléré, si vous voulez, à la fin du quinquennat Hollande, et surtout sous le quinquennat Macron, où là, désormais, si vous voulez, donc, ce ne sont plus seulement les courriers qui sont mis en machine, mais il y a les courriers, les courriels, il y a également les courriers manuels, il y a également la presse quotidienne régionale, il y a également de Twitter et Facebook, et cela sert en quelque sorte à donner, si vous voulez, une espèce d'état de l'opinion pour la préparation des voyages, voire, trois petits points, la campagne électorale d'Emmanuel Macron.
Oui, en deux mots, les usages ont changé. Alors aussi parce que Emmanuel Macron est ce jeune président qui est arrivé au pouvoir dénué d'expérience politique, notamment locale. Donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'il avait étudié les courriers pour aller vite, pour apprendre à devenir président, voilà, et pour savoir si les mesures qu'il prenait atteignaient leur but. Voilà. Et puis effectivement, alors dans l'esprit un peu des réformes pilotées par Emmanuel Macron, ce service s'est modernisé, a introduit des algorithmes. Et, par exemple, utilise les données dans les courriers pour les voyages présidentiels, pour les déplacements du président, afin que ce dernier sache qui il va rencontrer, qui il peut rencontrer, qui il peut mobiliser, qui il peut éventuellement aussi sonder en face à face.
Voilà. Donc voilà, il y a un ciblage, si vous voulez, à la fois régional, je vais dans telle région, et j'ai envie de traiter tel ou tel problème, et donc, quels sont éventuellement donc, les gens que je peux rencontrer, et qui peuvent servir de base au voyage.
Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Écrire au président, enquête sur le guichet de l'Élysée aux éditions La Découverte. Je vous assure qu'il y a des trucs très marrants à lire. On n'a pas le temps, mais franchement, il y a quelques lettres adressées à François Hollande sur ses chemises et sur la pluie qui lui tombait dessus, qui sont assez savoureuses. Merci en tout cas à tous les deux et merci à tous ceux qui nous ont appelés. Juste après les infos de 20h, ce sera
le livre.
Mais oui, mais je vous assure, si vous
j'exagère quand même.
Dites-moi qui vient dans l'heure philo tout à l'heure.
Francis Wolff pour Le Monde à la première personne, c'est le titre d'un livre.
Alors si Raphaël Delvolvé me donne 20 secondes, généreusement, je vais quand même vous en lire une qui a été adressée à François Hollande parce que c'est savoureux. Je ne comprends pas que le protocole n'ait pas un parapluie sous la main. En quoi serait-ce déshonorant d'avoir un parapluie sur la tête au lieu de montrer un homme d'âge mûr, les cheveux collés, les lunettes embuées, l'imperméable à essorer. Il y a 2 ans, on brocardait le président plus vieux. Aujourd'hui, il est vulnérable et votre image détrempée ne peut inspirer la confiance. On a crié pour des tas de raisons au président de la République.
Non, le monarque doit supporter la pluie, justement.
Absolument,
c'est dans la tradition française.
C'est terminé, merci à tous.